Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflits en kiosque avec un dossier qui est consacré à la Méditerranée orientale. Vous pouvez également retrouver Conflits sur notre site internet où vous pouvez vous abonner. Et vous abonner est la meilleure façon de soutenir le développement de Conflits. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et je vous en remercie. C'est une preuve de confiance et ce qui permet également à la revue de se développer. Et justement, comme on parle de développement, nous allons évoquer cette semaine le futur, essayer de dessiner un petit peu le futur qui nous attend, essayer de voir ce que peut être l'avenir entre certaines théories de collapsologie, certains évoquent l'humanisme, le transhumanisme, la place de l'être humain face à la technique, la place également des animaux. Il y a parfois un futur qui est craint, un futur qui est espéré par d'autres, enfin en tout cas, nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et pour cela, je reçois Antoine Bueno, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez au Sénat, vous êtes notamment dans la délégation de la prospective et de la commission du développement durable. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, des romans, des ouvrages plus scientifiques, notamment un ouvrage sur les Schtroumpfs. Donc là, c'est ici, parmi les ouvrages scientifiques, et vous publiez, et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, un dictionnaire sur le futur, paru aux éditions Flammarion. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflits. Futur, notre avenir de A à Z. Vous essayez de présenter un petit peu ce que peut être le futur. D'ailleurs, le sous-titre est un petit peu trompeur, parce que la première entrée ne commence pas par la lettre A, mais par 1984. Donc ça rappelle évidemment des souvenirs à ceux qui ont aimé le roman, au moins à ceux qui l'ont lu, même s'ils ne l'ont pas aimé. Avant de voir un petit peu le contenu de l'ouvrage et ce que vous en présentez, évidemment essayer d'analyser le futur, c'est toujours compliqué. Déjà, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les 20 ans derniers ou dans le siècle dernier, c'est plus compliqué. Mais quelles peuvent être les méthodes, quelles sont les méthodes que vous avez employées pour essayer d'expliquer le futur, ce qui pourrait être ou ce qui pourra être, et ainsi faire quelque chose qui soit plausible, qui peut-être aussi aura lieu sans tomber dans la science-fiction.
Alors, je vais commencer par une toute petite correction, parce qu'en France, on adore les étiquettes, donc je ne suis pas à la délégation, à la prospective, parce que pour ce faire, il faudrait que j'aie la chance d'être un sénateur ou une sénatrice. En revanche, il est vrai que je suis, comme je peux avec mes petites jambes, je suis les travaux de la délégation à la prospective, qui est un outil de réflexion qui est assez rare dans le monde. Il y en a quelques autres comme ça, donc des parlements qui se sont dotés de telles instances de réflexion, mais c'est pas très fréquent. Alors maintenant, je vais répondre plus précisément à votre question, qui pourrait être résumée en parlant sous votre contrôle, la question de savoir ce qu'est la prospective, en gros. Donc la prospective, c'est justement cette science, cette posture intellectuelle consistant à essayer de se projeter dans un avenir qui peut être de court, de moyen ou de long terme, mais pas du tout avec une boule de cristal. C'est-à-dire que je ne suis pas une diseuse de bonne aventure, je ne fais aucun saut dans l'inconnu qui ne soit, en tout cas je l'espère, étayé par des données, disons, académiques, des données chiffrées, des rapports, c'est-à-dire l'état de la pensée sur tel ou tel sujet, tel qu'on le dispose aujourd'hui. Et je vais préciser d'emblée que la différence entre un devin et un prospectiviste, c'est que le devin, il va prétendre vous dire exactement ce que sera l'avenir. Moi qui suis prospectiviste, je vous dis exactement le contraire. Je vous dis, selon toute vraisemblance, je me trompe. C'est-à-dire que je fais deux choses, je crée un cadre d'analyse. Ce cadre d'analyse, j'espère pour le coup ne pas me tromper parce qu'il est assez large, mon cadre d'analyse à moi, c'est de dire que notre avenir est déterminé par deux grands phénomènes massifs, majeurs. Le premier, c'est la crise environnementale, et le second, c'est la révolution technologique. Ça, c'est mon cadre d'analyse. Ça, j'espère ne pas me tromper. En revanche, au sein de ce cadre d'analyse, les projections, les prédictions que je peux faire, j'ai de très très grandes chances de me tromper, parce que par définition, le futur nous échappe, et c'est ça l'immense paradoxe, c'est qu'on n'a pas le choix que d'essayer de prévoir et de prédire des tendances, et en même temps, c'est impossible. En ajoutant une dernière chose, c'est que le rôle du prospectiviste, c'est pas seulement de vous dire ce qui va se passer, mais c'est aussi de vous dire ce qui risque de se passer. C'est-à-dire d'élaborer des projections dont on espère qu'elles ne se réalisent pas, en faisant des alertes, en disant attention, il y a tel ou tel danger, et si on a bien fait son travail, eh bien, le monde pourrait évoluer dans une autre direction en ayant pris conscience de telle ou telle possibilité.
Donc l'environnement d'un côté, les évolutions techniques de l'autre, d'ailleurs les deux sont liées aussi, enfin ou déjà s'interpénètrent, on va y revenir. Justement, dans votre ouvrage, vous évoquez beaucoup la question de la place de l'homme, et à savoir si l'homme existera encore tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le futur, notamment par rapport aux évolutions technologiques, donc c'est ce qu'on appelle du nom de transhumanisme. On voit effectivement qu'il y a un développement de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté. Alors, ce sont des concepts qu'on emploie sans trop les définir.
Oui.
Parfois pour se faire peur aussi. Comment justement on pourrait définir l'IA, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, l'homme augmenté, à quelle réalité ça correspond?
Alors, il y a énormément de questions en une seule. Donc, je vais déjà partir d'un constat qui, moi, m'a un peu interpellé. C'est que le débat sur le futur, il est aujourd'hui un petit peu confisqué, d'une certaine manière, par deux courants ou deux discours totalement antagonistes. C'est le discours de l'effondrement, qu'on appelle aussi discours de la collapsologie, d'un côté, et de l'autre côté, le discours du transhumanisme. Alors la différence entre les deux, c'est que les premiers nous disent la civilisation qui est la nôtre, c'est-à-dire la civilisation thermo-industrielle, va s'effondrer. Ça ne peut plus durer, elle va s'effondrer en particulier du fait des coups de boutoir de la crise environnementale, et donc nous allons passer à tout autre chose. Et les seconds, les transhumanistes, nous disent, dans très peu de temps, eux aussi, ils ont c'est le point commun entre les deux, une échelle de temps assez courte, dans très peu de temps, la technologie va aboutir à un point de développement qu'ils appellent la singularité, qui nous permettra véritablement de devenir des dieux. Et ce qui m'interpelle, c'est de constater que ces deux discours aboutissent à la conclusion de la mort de l'homme. Alors la mort de l'homme, si tout s'effondre et que l'effondrement est tel que l'humanité disparaît, c'est-à-dire que l'effondrement peut emporter l'humanité, donc exit l'humanité, et du côté du transhumanisme, c'est la mort de l'homme, disons une autre mort, c'est l'avènement d'une nouvelle humanité qui remplacerait l'humanité qui est la nôtre en fait, qui nous remplacerait nous, au profit, et vous l'avez dit, du post-humain. Une fois qu'on a dit ça, très rares sont les définitions du post-humain. Qu'est-ce qu'un post-humain? Eh bien, un post-humain, dans l'optique transhumaniste, c'est soit un humain augmenté, c'est-à-dire un être biologique qui aura été extrêmement modifié pour devenir autre chose, soit tout simplement une intelligence artificielle. Puisque dans l'esprit du transhumanisme, l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle atteindra, dans quelques décennies, ou peut-être plus, un niveau de capacité proche de celui du cerveau humain, voire supérieur à celui du cerveau humain, eh bien, ces intelligences artificielles-là, dans l'esprit et le discours transhumaniste, font partie de la post-humanité. Voilà ce qu'est un post-humain.
Ce que vous présentez comme étant d'un côté Icare et de l'autre Prométhée. Icare, c'est l'effondrement, il tombe, et Prométhée, c'est être comme des dieux et
alors
créer l'homme.
C'est exactement ça. Ces deux scénarios peuvent être raccordés à des personnages ou rapprochés à des personnages mythologiques. Celui d'Icare, pourquoi? Parce que c'est le scénario de l'effondrement. Icare, on s'en souvient, c'est le fils de Dédale. Avec son père, ils doivent s'évader du labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes conçu, et pour ce faire, il n'y a que les cieux, il n'y a que le ciel. Et donc, ils conçoivent des ailes artificielles. Mais Dédale met en garde son fils, Icare, en lui disant « Attention, tu vas être grisé par le vol, tu vas être grisé par la hauteur, tu vas vouloir te rapprocher du soleil, c'est-à-dire métaphoriquement devenir l'égal de Dieu, mais tu ne devrais pas, parce que la chaleur du soleil va faire fondre la cire de tes ailes, tu vas tomber, tu vas mourir. » C'est exactement ce qui se produit. Et donc l'humanité, dans ce scénario-là, serait très proche d'accéder au soleil, c'est-à-dire à la maîtrise physique absolue, puisque là, on a un développement technologique qui impressionne tout un chacun. Même aujourd'hui, savoir qu'on a la puissance d'un super ordinateur des années 50 dans la poche avec notre smartphone, c'est extrêmement impressionnant. Savoir que peut-être on pourrait rallonger notre espérance de vie de manière exponentielle dans les décennies à venir, c'est grisant. Donc on est si près de ce soleil-là, mais parce qu'on ne fait absolument pas attention à la manière dont on traite notre environnement, il pourrait se retourner contre nous, nous faire rater cette marche ultime et nous faire finalement chuter, soit pour disparaître complètement, soit pour revenir à une sorte de néo-Moyen-Âge nucléarisé potentiellement. Donc ça, c'est le scénario Icare de l'effondrement. Et le scénario transhumaniste, qui est celui de la maîtrise absolue, c'est le scénario de Prométhée, Prométhée qui offre le feu aux hommes, et symboliquement, c'est la maîtrise de la matière, la maîtrise de l'énergie par l'humanité. Et moi, ce que je développe, c'est l'idée que même si ces deux scénarios s'ancrent sur quelque chose de réel, puisque le scénario de l'effondrement s'ancre dans le fait que la crise environnementale est un des grands déterminants de notre avenir, je suis totalement d'accord avec ça et je crois que c'est difficile de le contester. Et le scénario transhumaniste s'ancre sur le fait que la révolution technologique a le potentiel de balayer complètement notre monde et de tout changer, ça aussi c'est difficilement contestable. Donc même si ces deux scénarios s'ancrent dans quelque chose de réel, ils ont quelque chose d'un peu extrémiste et en tout cas ne me semble pas pouvoir de manière très pertinente décrire notre avenir, même à moyen et long terme, qui pourrait, à mon sens, beaucoup plus ressembler à un scénario Janus. Donc je convoque une troisième figure, Janus étant l'être, le dieu à deux visages, et ce monde à deux visages, il a de très fortes chances d'émerger, c'est-à-dire un monde extrêmement contrasté, par exemple un monde dans lequel l'espérance de vie de centaines de millions de gens décroît, chute. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit quelques années durant dans les anciennes superpuissances, à savoir en Russie et aux États-Unis, pour des raisons différentes, pour des raisons sanitaires globalement. Mais demain, la crise environnementale pourrait faire chuter l'espérance de vie de millions, voire de milliards de personnes. Et puis, parallèlement à ça, on peut avoir une révolution de technomédecine qui augmente la longévité de manière extrêmement importante, voire qui nous fasse accéder d'ici quelques décennies, voire un siècle et demi, à une forme d'immortalité. Donc c'est ce contraste-là que j'essaie de mettre en scène et en musique dans mon livre futur.
Ce qui est intéressant, c'est que l'on suive la piste ICA ou la piste Prométhée, le futur tel qu'il est présenté est négatif et c'est une image de peur qui s'en dégage. Alors que jusqu'à encore les années 70, on avait une vision très positive du futur. On pensait au contraire que la vie allait s'améliorer. On a l'impression qu'il y a eu un basculement.
Alors je suis pas d'accord du tout. J'ai le sentiment, moi, que on a toujours eu un rapport totalement ambigu de sentiments mêlés au futur, qui était, et de tout temps, à la fois fait de peur et d'espoir. Vous prenez un exemple, celui des années 70, et je suis tenté de vous rejoindre parce que moi aussi j'ai en tête finalement la grande cinématographie, la grande iconographie de la science-fiction. C'était vraiment la grande époque de la science-fiction qui nous présentait un avenir, d'ailleurs dont on est très très loin. Les années 2020, c'était une date de science-fiction extrêmement lointaine dans laquelle on s'imaginait déjà dans l'espace avec des robots. On en est très loin, mais on a autre chose. Donc de ce point de vue-là, oui, effectivement, il y avait un espoir. Mais en même temps, en 1969, vous avez un livre qui a eu un énorme retentissement de Ehrlich qui s'appelle La bombe P et qui vous prédit un avenir abominable, totalement effondriste, collapsologue on dirait aujourd'hui en utilisant le terme de manière anachronique. Et donc vous voyez que même en 1970, on avait ce sentiment mêlé et cette opposition entre d'un côté la Prométhée, la promesse technologique et de l'autre côté la crainte de l'effondrement environnemental. Si on remonte dans le temps, cette espèce de rapport au futur ambigu, on le retrouve à toutes les époques.
Et finalement, c'est à chaque fois ni l'un ni l'autre qui a eu lieu, ou un mélange des deux, effectivement.
C'est un mélange des deux. Si on regarde notre époque par rapport à la grille de lecture des années 70, on peut effectivement considérer qu'on est dans un monde Janus, à 50 ans d'écart, c'est-à-dire qu'on se projette 50 ans dans le futur si on est en 1970, on est dans un monde Janus parce que la promesse technologique a été tenue, et l'humanité vit mieux aujourd'hui. Et elle est beaucoup plus nombreuse, pourtant. Donc, c'est le contraire de toutes les tendances et prévisions malthusiennes qui étaient caricaturellement exposées dans le livre de Ehrlich, La bombe P. Et d'un autre côté, eh bien, cette mise en garde malthusienne, elle a eu quand même un impact. Elle a eu un effet réel sur l'environnement parce que l'effondrement de la biodiversité est une réalité. On vit quelque chose d'absolument abominable qui est quelque chose qui s'est très rarement produit dans l'histoire de la planète, c'est-à-dire dans l'histoire de la vie entière depuis 3,7 milliards d'années. Et là, on est en train de le vivre et on en est la cause. Donc effectivement, on a cette abomination qui se passe sous nos yeux et on a aussi le réchauffement climatique dont on sait maintenant que c'est une réalité, que effectivement, nous avons, petite espèce, nous, petits singes sortis de la savane, l'humanité, au bout de quelques millénaires, en réalité beaucoup plus, mais mettons en tout cas, si on part du début de l'histoire, c'est-à-dire de l'agriculture et de l'écriture, en quelques millénaires, qui a réussi à modifier les grands équilibres de son environnement, de sa planète.
Autre aspect, c'est l'action de la population. Ça a été un peu évoqué, c'est aussi dans les prévisions du futur, ou la prospective, un aspect important. Il y a le nombre, évidemment, qui joue, et puis il y a aussi la qualité. Est-ce qu'elle est éduquée, informée ou non? Et pour une population nombreuse, on peut penser à l'Inde, on peut penser à la Chine, c'est évidemment un défi majeur. Et puis il y a aussi l'accès à la nourriture. C'est un peu le cas, notamment, du continent africain. Ça, c'est aussi un sujet que vous étudiez comme prospectiviste?
Alors c'est un sujet par lequel je suis même rentré dans la prospective, puisque j'ai publié avant un livre chez Albin Michel qui s'appelait « Permis de procréer » et qui, avec un titre extrêmement provocateur, avait un message extrêmement simple à faire passer, c'est que on ne négociera une véritable transition environnementale, c'est-à-dire une transition écologique digne de ce nom, qu'en prenant en compte le facteur démographique. Alors, je vais maintenant replacer le débat dans un contexte un petit peu plus large. Notre empreinte environnementale, elle dépend de deux facteurs, notre mode de vie et notre nombre. C'est-à-dire que évacuer le nombre dans le calcul de notre empreinte environnementale, ça équivaut à vouloir calculer la superficie d'un rectangle en prenant en compte que la largeur et pas la longueur, vous voyez. Il est évident que l'un ne va pas sans l'autre. Or, depuis les années 80, pour de bonnes et de mauvaises raisons, la question démographique a été totalement évacuée du débat écologique et des solutions encore plus. Alors que des solutions démographiques, il y en a. C'est-à-dire que pour mener une transition environnementale, il est extrêmement difficile, même s'il faut le faire, de faire une transition énergétique. Il est extrêmement difficile, même s'il faut le faire, de mener une transition industrielle. Ce que j'appelle la transition industrielle, c'est la circularité de la production. Extrêmement difficile, mais il faut le faire. Il est aussi extrêmement difficile de rendre durable notre agriculture, sachant que l'agriculture compte pour à peu près 50% de notre empreinte environnementale. Extrêmement difficile, alors qu'il est extrêmement facile de hâter la transition démographique, au moins dans les pays en développement, et c'est un véritable problème parce que le nombre d'individus dans les pays en développement, certains d'entre eux, en particulier en Afrique, va considérablement augmenter, alors qu'ils vont aussi tenter, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, d'accéder à un mode de vie développé, et donc cette multiplication du nombre par l'augmentation du niveau de vie risque d'avoir un impact extrêmement fort sur l'ensemble de nos besoins. Concrètement, d'ici à 2050, c'est plus 25% de besoins d'énergie, de nourriture, d'habits, de tout ce qu'on veut, et plus 50% d'ici à 2100. Donc, il faut prendre en compte ça, et quand je disais que c'est extrêmement facile de le prendre en compte, il est beaucoup plus difficile de construire des centaines de centrales nucléaires que d'offrir du planning familial, c'est-à-dire des préservatifs et des stérilés, aux 80 millions de femmes dans le monde qui chaque année réclament et se disent en manque de besoin de contraception. Il est extrêmement facile de mettre à l'école toutes les petites filles qui aujourd'hui en sont privées. Alors, je dis que c'est facile de les mettre à l'école, mais bien sûr, la difficulté est d'ordre culturel, d'ordre civilisationnel. Mais si on mène cette transition-là, c'est-à-dire qu'on offre du planning familial et de l'éducation à toutes les filles dans le monde, le taux de fécondité chuterait de manière considérable et nous permettrait peut-être de limiter les dégâts environnementaux.
Et il y a aussi la question de l'innovation, c'est-à-dire des innovations, des découvertes technologiques que l'on ne connaît pas forcément aujourd'hui et qui peuvent permettre, je pense à ce qu'on a connu dans le passé avec l'énergie nucléaire, qui apporte beaucoup d'énergie alors que c'était inimaginable. On peut même penser à l'apparition du pétrole, qui en son temps a été aussi une révolution technologique majeure. Donc là, il y a des données qu'on ne maîtrise pas, de découvertes ou de maîtrise technique que l'on n'a pas aujourd'hui, et qui seront peut-être le cas dans les 10 ou 15 ans qui vont venir.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les innovations les plus importantes de demain sont forcément en germe aujourd'hui. Parfois, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Donc, il faut aller chercher, aller fouiller, voir s'il n'y a pas des choses extrêmement importantes qui sont en développement. En revanche, évidemment, il y a peut-être des choses très importantes à côté desquelles, même quand on travaille sur la prospective comme moi, on peut passer. Attention, hein, je reste quand même extrêmement modeste. Mais pour reprendre précisément votre question, moi j'ai un discours malthusien qui est technophile, ce qui est rarissime, parce qu'en général, on a tendance à penser que la technologie ne pourra plus nous sauver quand on est dans cette famille de pensée néo-malthusienne, ce qui n'est pas du tout mon cas, et je suis totalement d'accord avec ce que je sens être votre propre opinion. Oui, il y a en germe aujourd'hui des innovations technologiques qui vont être absolument capitales et sans lesquelles on ne pourra pas mener une véritable transition environnementale. Je vais vous en donner au moins deux. La première, vous avez évoqué le nucléaire, c'est encore le nucléaire, mais cette fois-ci c'est la fusion. Imaginons un monde où la fusion nucléaire sera contrôlée, et ça sera possible à partir de 2050, 2060, donc ça veut dire qu'il faut tenir jusque-là, mais à partir de ce moment-là, le monde sera différent. La fusion nucléaire, c'est une énergie incroyable, Incroyable. On pourrait y revenir si vous voulez. L'autre outil technologique qui existe déjà, qui est en développement, et c'est comme la fusion nucléaire, tout ça c'est encore embryonnaire, mais c'est en développement. Donc cet autre outil technologique, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, et plus précisément la captation du carbone. Alors aujourd'hui, on sait faire de la captation du carbone à la source, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire à la sortie des cheminées, par exemple des centrales à charbon ou autres usines qui produisent des gaz à effet de serre. Mais demain, on saura faire, j'espère, de la captation du carbone dans l'air ambiant, c'est-à-dire qu'on disposera des moyens de revenir sur ce qu'a fait la révolution industrielle, de faire une révolution industrielle à l'envers, et ça, ça change tout, parce que c'est ça qui nous permet véritablement d'atteindre, peut-être trop tard malheureusement, mais au moins d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le GIEC, et même de revenir à, avec le temps, une baisse des températures. C'est-à-dire qu'il est sans doute possible, en mettant en place massivement de la captation du carbone la seconde moitié du XXIe siècle, et massivement encore plus au XXIIe siècle, de revenir sur ce qu'on a fait avec la révolution industrielle en termes de réchauffement.
Ça fonctionne comment, ça, cette captation du carbone? Il est stocké après,
alors voilà.
Comment ça le capte? Après, où est-ce que c'est mis?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, il faut bien distinguer ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la captation du carbone à la source et la captation du carbone dans l'air ambiant. Dans l'air ambiant, si vous voulez, on pourra développer, ça existe quasiment pas, si ce n'est en faisant pousser des végétaux. Parce qu'en réalité, quand vous faites pousser un arbre ou que vous faites pousser de l'herbe, etc., surtout si vous les modifiez génétiquement pour qu'ils absorbent encore plus de carbone que naturellement, eh bien, vous avez ce phénomène-là, c'est-à-dire que vous captez dans l'air ambiant. La nature est formidablement faite, hein, on y revient toujours, mais la captation du carbone dans l'air ambiant, c'est ce que font tous les jours les plantes. Donc on trouve ça fabuleux quand c'est un outil technologique, alors qu'on a ça autour de nous, et qu'on a grandi avec, et que c'est la base du vivant. Donc ça, on pourra revenir dessus. La captation du carbone à la source, ça existe. Eh bien, vous avez, en fait, tout simplement, on laisse pas le carbone s'échapper dans l'atmosphère. Et vous avez eu tout à fait raison de poser la question de ce qu'on en fait ensuite, parce qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, qui est la moins intéressante, mais qui est quand même déjà très intéressante, c'est de le stocker. Alors, ça pose d'énormes problèmes techniques, et c'est ça qu'on est en train d'essayer de régler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 50 projets de captation du carbone à la source qui se développent dans le monde, c'est-à-dire que c'est un développement exponentiel, sachant qu'aujourd'hui, en place, il y en a même pas une dizaine. Enfin, je revois mes chiffres, mais c'est de cet ordre-là. Et donc, le carbone est stocké en couches géologiques profondes, ça veut dire qu'il faut avoir des sites géologiques qui permettent de l'accueillir. Donc, ça pose des problèmes d'acheminement, des problèmes de stockage. L'autre possibilité, ça sera de recycler le carbone. Alors là, ça devient une révolution véritable, puisque vous faites vraiment ce que j'ai appelé la révolution industrielle à l'envers. Vous prenez ce déchet-là, qui est vraiment le truc dont on ne sait pas quoi faire depuis qu'on a commencé à exploiter du charbon, et vous en faites quelque chose. Ça, c'est possible. C'est en cours de développement. Vous pouvez faire, par exemple, des matériaux pour la construction, pour le bâtiment, à partir du carbone.
Ça rappelle ce qui se fait notamment dans les centrales de traitement des déchets, où on récupère on appelle les mâches fer qui servent ensuite à faire des routes.
Bien sûr.
Ou les autoroutes sur lesquelles on est. Donc effectivement.
Bien sûr. En fait, des solutions pour la transition environnementale, il y en a beaucoup de disponibles. Il faut trouver les moyens et la volonté, le volontarisme social et politique et l'environnement économique pour les développer. Et des solutions en devenir, c'est-à-dire qui nécessitent d'être développées, on en a aussi beaucoup. Et là, c'est pareil, il faut investir pour les développer.
Alors, ce qui suppose un autre aspect que vous évoquez aussi dans ce dictionnaire, c'est la question de l'éducation, parce que plus on a une société qui est technique, technologisée, plus il faut avoir de gens, je veux dire, plus intelligents, mais enfin, en tout cas qui maîtrisent ces outils techniques. Donc, on peut pas avoir une société d'idiots. Il faut avoir des personnes qui, dans le monde de l'ingénieur, dans le monde économique, technique, enfin tout l'ensemble du secteur économique, soient capables à la fois de conserver les techniques existantes et un temps de les développer. Donc là, ça suppose aussi un enjeu d'une meilleure formation des populations, et notamment des populations qui arrivent, les enfants.
Oui. Alors, en fait, la question de l'éducation, elle est intrinsèquement liée à une autre question que peut-être vous allez me poser, qui est celle du travail. Parce que, a priori, l'école, elle sert à deux choses. Elle sert à faire des gens qui seront bien dans le monde de manière globale, et cette fonction-là, elle continue. Elle sera toujours d'actualité, on aura toujours besoin, que ça passe par une école telle qu'on la connaît ou par une éducation dispensée différemment, de manière totalement technologique, pourquoi pas virtuelle, etc., pourquoi pas, mais en tout cas cette fonction-là dans la société, elle perdurera. L'autre fonction qui est de préparer un métier, elle est mise sur la sellette, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai deux filles qui sont toutes petites, qui ont 6 ans et 2 ans. Ben, je peux pas, sans trembler du menton, en les respectant et en étant honnête avec elles, les regarder droit dans les yeux et leur dire vous devriez aller dans tel ou tel domaine. Parce que j'en sais rien. J'en sais rien parce que la transformation du monde est tellement rapide que je ne peux pas faire de pari en étant sûr de moi sur les secteurs d'activité dans lesquels elle devrait s'engouffrer pour être sûr d'avoir du travail. Je vais prendre une autre métaphore pour encore plus éclairer le propos. Si je vivais en l'an 1000, je pourrais regarder mes filles en leur disant tu devrais devenir boulangère. Parce que le rythme du changement en l'an 1000 est quasiment nul, ou au moins tellement faible, que je sais que dans le cours de ma vie d'homme, il y aura encore des boulangeries, il y aura encore du travail pour être boulangère. Et c'est dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui, où on ne peut plus véritablement prédire, alors encore moins dans le domaine de l'éducation. Après, il y a une autre question qui se pose, qui est en filigrane de ce à quoi vous pensiez, qui est celle de la concurrence entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Alors, il y a des esprits très brillants, je pense à Laurent Alexandre, avec lequel j'échange beaucoup, je pense à Elon Musk, qui a créé une société qui s'appelle Neuralink, et ces gens-là, les deux, vous disent, demain, l'intelligence artificielle va être tellement performante que, si vous voulez que les êtres humains continuent à être compétitifs intellectuellement, il va falloir les augmenter cérébralement, c'est-à-dire il va falloir faire de l'eugénisme intellectuel. Je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que, on va prendre une métaphore pour bien expliciter le propos, c'est comme si, en 1900, vous aviez dit, attention, l'automobile arrive, il faut apprendre à tout le monde à courir le 100 mètres aussi rapidement qu'une automobile, parce que sinon, vous allez bientôt être dépassé par l'automobile. L'intelligence artificielle, c'est un adjuvant de la pensée humaine. Et il faut qu'elle continue, c'est encore notre débat, mais qu'elle continue à être un outil au service de l'intelligence humaine, d'une part. D'autre part, vous n'arriverez absolument jamais à augmenter les capacités neuronales, c'est-à-dire le QI, dans les proportions dans lesquelles les capacités de l'intelligence artificielle vont dans le même temps pouvoir se développer. Donc c'est totalement utopique.
On a eu la même chose avec l'informatique, un ordinateur calcule plus vite que nous, et ça n'a pas empêché la disparition d'êtres humains.
Mais c'est exactement ça, donc c'est encore la métaphore de l'automobile. Vous avez toujours besoin de vos jambes, même s'il est évident que pour aller plus vite, il faut prendre soit un train, soit une voiture. Et pour reprendre l'exemple que vous prenez, aujourd'hui, c'est des intelligences artificielles faibles, c'est ça qu'on va vous répondre. Mais c'est vrai que ces intelligences artificielles faibles, elles nous aident à pouvoir calculer 2304 fois 5612. Aucun intérêt de pouvoir le faire moi-même à partir du moment où j'ai ça dans mon smartphone et où je peux faire l'opération tout de suite.
Alors justement, on va aborder la question du travail parce que un des grands événements du 20e siècle et début 21e, surtout en Europe, c'est la diminution du temps de travail
oui.
par l'accroissement de la productivité.
Oui.
D'ailleurs, on n'a pas forcément pris la mesure de ce que ça représentait parce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, disons, dans les années 1900, travaillaient 14-15 heures par jour éventuellement. Aujourd'hui, on travaille beaucoup moins. Donc, ça veut dire apparition des loisirs. Donc, c'est une transformation complète de la société. On peut supposer que nous aurons encore moins besoin de travailler. Donc, peut-être aller vers 20 heures de travail par semaine. Enfin, sauf si la fiscalité augmente. Donc là, il faudra continuer à travailler pour payer des impôts. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, la technique, l'accroissement de la productivité fait que la durée de ton travail diminue. Ou alors, on peut dire qu'on travaille différemment.
Alors, dans l'entrée travail, j'ai commencé par me livrer un petit exercice parce que j'ai cherché une donnée extrêmement importante et je ne l'ai pas trouvée. Donc, je me suis livré à une approximation qui était de savoir, aujourd'hui, au moment où on se parle, quelle est la place du travail dans la vie moyenne d'un être humain. Ma conclusion, c'est 10%. Mais c'est quand même une conclusion dingue. Ça veut dire que, en moyenne, dans une vie humaine aujourd'hui sur Terre, donc en 2020, on est bientôt 8 milliards, eh bien le travail ne représente que 10% de notre temps. Évidemment, ce qui nous donne l'illusion que le travail est central, c'est parce que ces 10% sont extrêmement mal répartis. Il y a des individus sur la planète qui travaillent 20 heures sur 24, quand d'autres ne travaillent pas du tout. Donc c'est déjà un capital travail qui est réparti très inégalement entre les êtres humains, et puis aussi c'est réparti très inégalement au sein de la vie de chacun. Si le travail est central, en tout cas dans notre appréhension du monde, dans notre illusion, je dirais presque du monde, c'est parce que le travail est placé au centre de notre temps. C'est placé au centre de notre temps de vie. Notre vie professionnelle, c'est au milieu de notre vie professionnelle, ni au début où on doit se former, ni à la fin où on est à la retraite. C'est placé au centre de notre temps quotidien. C'est au milieu de nos journées. C'est en général, on travaille au milieu de la journée. C'est au milieu de nos semaines, etc., etc. Donc, le placement stratégique et l'importance qu'a eu le travail dans les siècles et les millénaires passés font que on ne se rend pas compte qu'on est déjà passé dans une autre civilisation, une civilisation dans laquelle le travail est extrêmement minoritaire dans notre temps. Là-dessus vient se greffer le fameux débat sur l'intelligence artificielle, les robots, versus le travail humain. C'est-à-dire que tout ce débat, c'est que va-t-il advenir de ces 10% subsistants ? Il faut bien avoir les choses en tête. Donc la question c'est, est-ce que demain, la technologie va supprimer le travail humain ? Et c'est à ça que vous espérez que j'apporte une réponse. Alors déjà, je vais vous dire que cette question a été posée par un institut américain à 10 000 spécialistes du travail. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, selon vous ?
Ils n'en savent rien.
C'est à peu près ça. 50% a répondu non, il n'y aura plus assez de travail. 50% a répondu oui, il y aura assez de travail. Alors quand vous avez 10 000 experts qui vous répondent ça, vous pouvez vous dire instinctivement que personne n'en sait absolument rien. Donc il faut être extrêmement modeste. Là-dessus, ça n'empêche pas d'essayer de réfléchir et de raisonner sur la question. Ma conclusion à moi, c'est que tant que nous n'avons pas d'intelligence artificielle forte, et elle n'arrivera pas de sitôt, et tant que nous n'avons pas des robots polyvalents, véritables robots polyvalents, et ils n'arriveront pas de sitôt, il y aura largement du travail pour tout le monde, c'est-à-dire que les mécanismes schumpeteriens de destruction créatrice, c'est-à-dire le fait qu'une technologie détruit une catégorie d'emploi, mais crée autant, voire davantage d'emplois d'autres catégories, cette mécanique-là, à mon sens, devrait encore perdurer pour quelques décennies, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nos générations. En revanche, j'ai du mal à concevoir comment le travail humain, en tout cas dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, pourrait subsister avec l'avènement de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui aurait les capacités du cerveau humain, voire au-delà, et servie par des robots polyvalents, capables d'effectuer à peu près toutes les tâches dans n'importe quel milieu. À partir de ce moment-là, c'est clair qu'il faudra passer à autre chose.
Et alors là, à quoi on consacre nos journées, à regarder Netflix sur un canapé ou...
Alors, je ne pense pas. Déjà, il faut bien voir que si on en arrive là, peut-être que ce dont rêvent les transhumanistes, c'est-à-dire la fusion de l'homme et de la machine, sera consommé.
Donc nous serons nous-mêmes la machine.
Oui,
donc
on
peut travailler d'une manière,
Ou d'une autre. Disons que le capital, c'est-à-dire l'intelligence artificielle se sera émancipée de la même manière que les esclaves ont été émancipés, et peut-être que ce capital-là, ces machines, refuseront de continuer de travailler pour les sous-hommes ou les sous-êtres qu'ils considéreront que nous sommes, mais peut-être aussi que nous serons devenus ce capital-là, et que donc la question du travail humain ne se posera plus. Si la fusion avec la machine n'est pas consommée, il est possible que un travail humain résiduel perdure, d'une part, et que d'autre part, les mondes virtuels viennent apporter une solution à l'humanité subsistante. Alors, travail humain subsistant pourrait prendre plusieurs formes. D'abord, une forme de quasi-fusion avec la machine, des cerveaux humains en quasi-fusion avec la machine, un travail de collaboration entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, mais là on parle vraiment d'une fusion entre les deux, donc ça équivaut à la fusion homme-machine. D'autre part, un travail humain qui serait un travail de luxe, c'est-à-dire imaginez qu'être servi ou qu'on vous réponde que de véritables êtres humains soient là pour vous rendre un service relève de l'industrie du luxe. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, troisième type de travail humain, qui relèverait de ce qui aujourd'hui s'appelle le tiers secteur, c'est un travail humain d'humanisation du monde, de care. Aujourd'hui, on parle beaucoup du care. Donc, un temps consacré par chacun à la communauté, pour les autres, pour autrui, pour se fondre dans un corps collectif, etc., en échange d'une gratuité de l'ensemble des services, si l'intelligence artificielle veut bien continuer de travailler pour nous. Et puis alors l'autre piste que j'évoquais, c'est celui des mondes artificiels, des mondes virtuels, dans lesquels effectivement des centaines de millions, voire des milliards de personnes pourraient se réfugier. C'est-à-dire, quand on parle de monde virtuel, c'est des univers dans lesquels, une fois plongé dedans, vous n'avez aucun moyen de faire de différence avec le réel. Tous vos sens sont mobilisés dans la virtualité, sans que vous n'ayez plus aucun contact avec le monde extérieur, et vous pouvez même, si on efface de votre mémoire le souvenir du monde réel, croire que votre monde virtuel est un monde réel. Ce qui, après, d'un point de vue philosophique, pose la question de savoir si notre monde est un monde réel, etc. Vous savez, toujours, c'est le mythe de la caverne, mais reposé à la manière technologique, quoi. Et donc des millions de gens, des milliards de gens pourraient effectivement trouver un sens à leur vie dans des univers artificiels de leur choix et y mener des vies laborieuses, hein, parce que dans le monde du Seigneur des Anneaux, on peut tout à fait choisir d'être forgeron et c'est pas facile d'être forgeron.
Alors, on va terminer cette émission, enfin, qui arrive à son terme. Je voudrais évoquer deux choses pour la fin de cette émission. On terminera par la guerre, à tout seigneur tout honneur, pourrait-on dire, on finira par là. Mais avant, vous avez consacré une entrée à l'art, et c'est un sujet aussi extrêmement intéressant, parce que l'art, c'est à la fois l'inventivité, c'est aussi la création, on travaille sur la matière, et vous optez pour un chemin un peu particulier en expliquant que vous estimez que l'art sera virtuel. Donc, on suppose donc là qu'il n'y aura plus du tout de matière, ce qui fait la base de normalement de l'art.
Alors, quand je parle de l'art ou du sexe par exemple, ma démarche est assez simple, c'est que je parle de tout le reste du livre et j'applique ces constats, ces conclusions à des domaines particuliers, en l'occurrence l'art. Si vous partez du principe que effectivement la révolution technologique c'est quelque chose de très important qui va balayer notre monde, tout autant potentiellement que la crise environnementale, dans cette révolution technologique, vous voyez que vous avez d'un côté les biotech et de l'autre côté les infotech. Alors les biotech, on va dire schématiquement, c'est la génétique. Et les infotech, alors là, c'est une grande famille qui recouvre le virtuel, l'intelligence artificielle, etc. Donc, si véritablement ces deux révolutions changent le monde, ben, ces deux révolutions changeront l'art. Donc je fais ce pari-là. Je fais le pari que l'art sera biologique, c'est-à-dire qu'on aura une sorte de DNA art, art ADN, qui existe déjà. Il y a des laboratoires, il y en a un par exemple en Australie, qui sont des laboratoires artistiques, où on ne fait que des œuvres d'art biologiques. Et il y a des artistes qui se consacrent exclusivement aux œuvres d'art biologiques. Donc je fais ce pari-là, que l'art sera biologique. Ça part aussi d'une analyse de l'histoire de l'art consistant à se dire que l'art se rapproche toujours plus de la vie et donc l'aboutissement de l'art, c'est d'être la vie, vraiment. Et d'un autre côté, si l'infothèque et le virtuel deviennent véritablement les moteurs de notre monde, l'art sera aussi virtuel. Et donc on créera des univers, qu'ils soient figuratifs ou pas figuratifs, dans lesquels on se plongera, on s'immergera complètement. Mais je fais un troisième pari dont vous n'avez pas parlé, c'est que l'art, ça sera le monde. C'est-à-dire que chacun, par l'ensemble des moyens technologiques, à moins d'un effondrement, toujours pareil, hein, mais si en tout cas le progrès tel qu'on le préfigure aujourd'hui, qu'on peut l'envisager aujourd'hui, continue sur sa lancée d'ici un siècle ou deux, eh bien tout un chacun aura les moyens de faire de son monde une œuvre d'art. Et en particulier, la réalité augmentée vous permettra de modifier à l'envi votre perception du monde et de faire une sorte de musée permanent dans lequel vous plongerez, vous vous baladerez, mais avec le risque évidemment de perdre tout pied avec la réalité.
Alors dernier élément qu'on va traiter dans cette émission, la guerre qui est le propre de l'humanité, qui a commencé...
Ça, je ne sais pas. C'est vous qui le dites.
En tout cas, elle commence avec Romulus et Rémus ou Cain et Abel. On voit bien que la guerre est quand même assez prégnant. On pourrait avoir une guerre extrêmement technologique, ça peut être le feu nucléaire ou d'autres, et puis aussi des guerres extrêmement archaïques, voire des guerres où les gens en viennent aux mains, qui est aussi une manière de combattre. On va dire que le terrorisme se limite à une guerre des couteaux, donc on est très loin de la guerre technologique. Là aussi, si on applique les éléments que vous utilisez pour étudier ou prospecter le futur, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la guerre ?
Déjà, revenir sur une petite chose, d'après ce que j'ai compris de l'état des connaissances anthropologiques, on se demande toujours si c'est la guerre ou le commerce qui sont à l'origine de l'humanité, plus précisément à l'origine de l'histoire et des civilisations. Il semblerait que ce soit les deux, mais peut-être avec un petit avantage, même si la guerre a dû suivre de très près, pour le commerce. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, le monde actuel, d'après la Seconde Guerre mondiale, a fait le choix, très clairement, c'est un choix, je dirais, explicité, du commerce contre la guerre. Alors, maintenant, projetons-nous dans l'avenir. Il y a deux possibilités. Il est tout à fait possible qu'on en arrive à un état de paix perpétuelle. C'est l'expérience grandeur nature qui a été menée en Europe, en tout cas en Europe occidentale, puisque la recette, elle nous avait été donnée par Kant, la recette de la paix perpétuelle, qui nous explique à la fin du XVIIIe, alors qu'on est quand même très très loin de ça dans le monde qui est le sien. Donc là, on parle de prospective, voilà un prospectiviste qui est assez remarquable. Il nous dit la recette de la paix perpétuelle, c'est d'avoir un grand marché commun, des institutions de gouvernance communes, globalement. C'est exactement la définition de l'Union européenne, et c'est la raison pour laquelle, à moins vraiment que j'ai rien compris à l'état de notre monde, une guerre entre la France et l'Italie est aujourd'hui totalement impensable, une guerre entre la France et l'Allemagne totalement impensable, et même une guerre entre la France et l'Angleterre du Brexit, même si elle est sortie de l'Union européenne, parce qu'on a quand même des accords de commerce et des intérêts qui sont tels, tout ça est totalement impensable. Donc, l'état de paix perpétuelle, on arrive à comprendre comment c'est possible. Dernier point, pardon, j'ai oublié de la recette qui est quand même extrêmement importante, c'est d'avoir que Kant appelle un régime républicain. Donc, c'est-à-dire un régime fondé sur potentiellement de la représentation, de l'humanisme, des droits de l'homme, etc. Cette recette-là, elle peut s'appliquer au monde demain si la croissance économique permet à l'ensemble de l'humanité d'accéder au développement, d'accéder à un niveau de vie qui aujourd'hui est seulement occidental. C'est tout à fait possible. Qu'il y ait une corrélation entre le développement et la paix, ça me semble être quelque chose qui est de mieux en mieux établi. En revanche, on a une menace colossale, qui est énorme et qui est d'ailleurs parfaitement identifiée par les principaux états-majors du monde, qui est la menace environnementale. La menace environnementale est un facteur, un ferment de guerre du futur qui pourrait tout à fait être des guerres atechnologiques. Vous avez tout à fait raison. Le dernier génocide le plus frappant, le plus marquant, celui du Rwanda, il a été perpétré et mené avec des machettes. Il a fallu importer 3 millions de machettes dans le pays pour que ce soit fait. Donc, ces guerres-là de demain, qui sont des guerres environnementales, ça peut être mené, comme on l'a observé aussi au Darfour, avec des 4x4 et des machettes. C'est pas forcément technologique. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'impact de la crise environnementale peut être un facteur de conflit armé extrêmement fort et donc d'une résurgence de la guerre. Je parle de résurgence sans forcément adhérer à la thèse selon laquelle aujourd'hui il y aurait moins de guerres qu'avant. Attention.
Bien, merci beaucoup pour avoir proposé ce petit tour du futur.
Ben c'est moi qui vous remercie.
Dont les décennies qui viennent eh bien, permettront de voir ce qui a été retenu, sachant qu'il y a toujours aussi des imprévus. Tout le charme de la vie humaine. Je rappelle votre ouvrage, donc Futur, chez Flammarion, notre avenir de A à Z, et donc sous forme de dictionnaire avec des entrées qui permettent aussi de réfléchir. Comme vous le dites, chacune des entrées est un petit essai sur le sujet qui est étudié. Toutes les références sont du livre, donc sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Merci à vous pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt.